C'est un moment historique pour le marché du travail au Nouveau-Brunswick. La loi sur la transparence salariale a officiellement reçu la sanction royale. Fini l'époque du secret absolu entourant les fiches de paye. Les employeurs vont devoir désormais afficher les échelles salariales et il sera interdit de vous demander votre historique de rémunération lors d'une embauche. Une victoire majeure, oui, mais le combat est loin d'être terminé, notamment pour le secteur privé. Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Joanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick. Madame Perron, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Après des années de recherche, de sensibilisation, de pression politique, enfin une loi est adoptée. On imagine que c'est un immense soulagement, une satisfaction. C'est quoi le sentiment qui domine au sein de la coalition aujourd'hui?
C'est certain qu'on est heureuse de voir cette grande étape vers plus de transparence salariale. On pense que ça va nous aider à atteindre l'équité salariale, mais on n'a pas fini. Il faut quand même avoir une loi aussi pour l'équité salariale. Et la loi sur la transparence salariale elle-même n'est pas tout à fait complète, là. Donc, oui, elle va exiger l'affichage du salaire, ou d'une échelle salariale dans toutes les offres d'emploi dès maintenant. Elle va aussi interdire aux employeurs de demander l'historique salarial des personnes qu'ils embauchent dès maintenant. Mais on n'a toujours pas les détails par rapport aux rapports annuels qui vont être exigés des employeurs de 50 employés ou plus. Puis aussi, il y a une clause qui est vraiment importante, qui n'est pas encore en vigueur, c'est celle qui protège les membres du personnel contre les représailles si les gens discutent entre eux de leur rémunération. Donc, on attend les règlements, la réglementation et la proclamation de certains articles de la loi. On peut dire qu'on a une belle étape de fait, mais il en reste encore.
Alors aujourd'hui, pour les travailleurs, travailleuses qui nous écoutent, au moment de postuler à un nouvel emploi, qu'est-ce que ça va changer concrètement?
Je pense que si on sait quels sont les salaires qui sont offerts pour un emploi auquel on postule, on est dans une bien meilleure situation. On peut mieux négocier, en fait. Et c'est important particulièrement pour les gens qui sont peut-être moins dans les réseaux, tu sais, que dans certains réseaux. Donc, ça va aider les femmes, mais aussi les personnes qui peuvent être immigrantes, qui connaissent pas le marché du travail ici, les personnes racisées qui peuvent vi vivre de la discrimination parfois, les autochtones, les personnes qui viennent de la communauté LGBTQ+. Donc, d'avoir plus de transparence, ça aide les gens qui ont peut-être dans le passé été défavorisés parce qu'il y avait moins de réseaux dans certains milieux de travail, là.
Alors, dans le communiqué que vous avez envoyé, on sent qu'il y a une grosse nuance quand même. On célèbre, mais on reste vigilant. Certaines dispositions vont entrer en vigueur à une date fixée par proclamation du gouvernement.
C'est ça.
Pourquoi ce délai vous inquiète aujourd'hui?
Ben, c'est sûr qu'une de nos préoccupations, c'était que les employés n'avaient pas le droit de partager de l'information sur leur salaire avec leurs collègues. Ce que ça fait concrètement, là, c'est que tu peux même perdre ton emploi si tu partages de l'information. Mais si tu ne partages pas l'information, comment tu peux savoir si tu as même la parité salariale, un salaire égal pour un travail égal? T'sais, ça fait depuis 1965 que c'est un droit de la personne, ça. Mais sans information, comment on peut renforcer ce droit-là? Donc, il faut avoir accès à de l'information ou au moins ne pas perdre son emploi si on essaie d'avoir de l'information. Donc, le plus vite que ça devient une réalité, le mieux c'est à notre avis. Au fond, c'est des droits qui sont déjà reconnus. C'est plutôt une question de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre.
Et alors sur la date fixée par proclamation, est-ce qu'on craint que le gouvernement utilise ce flou pour repousser un peu l'application réelle de la loi?
C'est notre espoir que ce soit pas le cas. On va certainement continuer le dialogue avec le gouvernement. Notre compréhension est que l'intention est de promulguer cet article-là le plus tôt possible, mais bon, tant que c'est pas fait, hein, on reste quand même toujours sur notre appétit, si on veut. Et puis la question de la réglementation pour savoir quel genre de rapport vont être demandés des employeurs, ça va être important. Aussi, quel genre d'exigences seront mises en place pour s'assurer que la loi sera vraiment mise en œuvre. Ça, il y a des éléments qui manquent carrément dans la loi, qui vont être là dans la réglementation. Donc, ça, c'est nos prochaines étapes en ce qui concerne la transparence salariale.
Alors justement, la loi oblige les entreprises de 50 employés ou plus à publier des rapports annuels sur les écarts de rémunération. Comment est-ce que vous allez vous assurer justement que ces rapports soient réellement transparents et que ça ne devienne pas juste comme un exercice de relations publiques pour les grands patrons?
C'est une excellente question. C'est pour ça qu'on veut regarder qu'est-ce qu'il y aura dans la réglementation. On aura la chance de commenter la réglementation avant qu'elle soit adoptée. Donc, on va certainement s'assurer que ce soit solide. Le gouvernement est censé rendre public l'information qu'il aura récoltée de façon anonyme, là, évidemment, mais quand même, ça nous donnera aussi une bonne indication au public, puis aux gens sur le marché du travail, sur qu'est-ce qui sont les réalités sur le terrain, là.
Alors, sur la donnée justement de la transparence, ça c'est acquis. On doit faire cette distinction avec l'équité salariale, un salaire égal pour un travail égal, comme vous l'avez indiqué. Ce n'est pas toujours une réalité dans le secteur privé, notamment au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour arriver à ça?
En fait, ce qui est loi au Nouveau-Brunswick présentement, c'est la parité, un salaire égal pour un travail égal. Et ça, c'est vrai dans le secteur public et privé. Mais l'équité salariale, ça va plus loin. Ça compare les emplois où il y a surtout des femmes avec les emplois où il y a surtout des hommes. Et l'idée, c'est que souvent, les emplois à prédominance féminine sont moins bien payés et moins valorisés, en fait, que les emplois à prédominance masculine. Mais si on regarde les responsabilités, les efforts, les conditions de travail, et les qualifications qui sont requises pour les emplois, là, on peut voir s'ils sont payés de façon juste et équitable. On a une loi dans le secteur public, présentement au Nouveau-Brunswick, qui exige que l'employeur analyse les emplois où il y a surtout des femmes, les emplois où il y a surtout des hommes, puis s'assure qu'il y a une équité salariale. Donc, même si les emplois sont différents, s'ils ont la même valeur, qu'ils aient le même salaire. Mais dans le secteur privé, c'est pas encore la réalité. Je dois dire que le gouvernement a promis aussi une loi sur l'équité salariale pour le secteur privé. Et ça, c'est vraiment essentiel à notre avis. La majorité des femmes travaillent dans ce secteur-là. Puis je voudrais en profiter aussi pour mentionner que c'est pas juste les femmes, ça va être aussi les hommes, les personnes non binaires qui sont dans ces emplois-là à prédominance féminine qui vont bénéficier de cette loi-là. Par exemple, si on regarde les caissières et caissiers dans une épicerie, bon ben c'est surtout des femmes. Donc cet emploi-là serait évalué. Et il pourrait être comparé avec l'étalagiste, la personne qui met la marchandise sur les étalages, qui sont souvent des hommes. Donc, on va pouvoir comparer ces emplois-là. Mais il y a des hommes là, qui sont caissiers. Il y a des femmes qui peuvent être étalagistes. Ben, il faut s'assurer que ces emplois-là sont payés de façon équitable.
Vous l'avez dit, le gouvernement a promis, s'est engagé à régler ce dossier au cours du mandat. Est-ce qu'on sent une réelle volonté politique ou est-ce que vous vous attendez à devoir aller mener une autre longue bataille?
Le gouvernement continue à affirmer qu'ils vont adopter une loi pour le secteur privé dans le mandat actuel. C'est sûr que nous, on demeure vigilante. C'est notre rôle. Je pense qu'il faut le rappeler. Un gouvernement a certainement plusieurs enjeux qui attirent leur attention. On veut s'assurer que cet enjeu-là ne soit pas oublié. C'est essentiel d'avoir un milieu de travail le plus juste possible, que les gens qui contribuent à l'économie comme employés puissent avoir des conditions qui reconnaît leur travail. Donc, nous, on va continuer à pousser le gouvernement, mais pour l'instant, on n'a aucune indication qu'il va reculer sur sa promesse.
Une fois que ce sera fait, si le gouvernement maintient son engagement, c'est quoi le combat d'après?
Après, c'est vraiment la mise en œuvre de la loi. On sait qu'il y a des lois, des fois, qui restent sur les livres, mais qui ne sont pas, qui sont pas vraiment appliquées. Nous, on veut s'assurer que ça devienne vraiment la réalité des gens là, sur le terrain, que les gens qui sont sur le marché du travail. Donc, on aura un rôle un peu plus de chien de garde, mais aussi d'éducation, c'est certain. Il y a toujours cette question-là, si les gens ne comprennent pas c'est quoi leurs droits, ils vont pas s'en prévaloir. Donc, nous, on veut que le gouvernement joue un rôle d'éducation auprès des employés et des employeurs, mais en même temps, on va garder ce rôle-là aussi et on va en même temps être un peu un chien de garde, là.
Est-ce que vous avez été en contact peut-être avec des acteurs du secteur privé qui surveillent un peu tout ce qui va arriver dans les mois, dans les années à venir? C'est quoi le sentiment qu'on a par rapport à ça aujourd'hui?
Ben, on a entendu un peu d'employeurs prendre parole. Assez peu quand même sur la place publique, honnêtement. C'est certain que ça exige un changement de culture, ça exige des changements de fonctionnement, de procédure, mais au bout de la ligne, on rappelle toujours que c'est un outil de gestion des ressources humaines. Surtout les questions d'équité salariale, c'est basé sur des évaluations d'emploi. Ça permet un système de rémunération qui est beaucoup plus transparent, mais aussi plus logique, qui a du sens. Donc, on rappelle que c'est un outil de gestion de ressources au bout de la ligne. Puis en réalité, les outils d'évaluation d'emploi qui sont au cœur de l'équité salariale ont été développés pour les besoins de gestion de ressources humaines à la base, sans même penser à l'équité salariale comme telle. Donc, on voit que les employeurs, souvent, veulent se donner des systèmes pour organiser leur entreprise et ça a juste plein de sens là, de faire ça.
Si vous avez un message à passer à ces patrons qui s'inquiètent de voir arriver ces lois.
Ben, on sait que le Québec et l'Ontario ont tous les deux des lois sur l'équité salariale qui couvrent les secteurs publics et privés, comme ce qu'on attend ici pour le Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, c'est les modèles que le Nouveau-Brunswick veut suivre. On sait qu'il n'y a aucune entreprise qui fait faillite à cause de ça et que les entreprises qui l'ont fait ont reconnu souvent que sans loi, ils l'auraient peut-être pas fait parce que c'est une tâche de plus, mais qu'avec la loi, ils ont vu que leur système de rémunération était devenu un peu plus logique, avait plus de sens et qu'il y avait des avantages aussi, justement, à avoir un système de gestion des ressources humaines plus organisé.
C'est un dossier qu'on va suivre de près, surtout lors des prochaines étapes, donc de proclamation, de réglementation. Merci, Joanne Perron. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous faire la lumière sur ces avancées historiques.
Merci à vous, Sébastien.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.